Tout pour investir, le journal de votre argent.
Et notre rédacteur en chef ce matin, c'est Félix Baron. Bonjour cher Félix.
Bonjour Lorraine.
Félix Baron, pour ceux qui nous suivent en images, qui a piqué le look d'Antoine Larry-Gaudry puisqu'il porte de magnifiques bretelles. Félix, vous êtes... au-delà de votre port de bretelles, fondateur du Club des investisseurs indépendants, avec nous le mercredi pour couvrir l'actualité. On va parler d'un sujet qui vous est cher et que vous surveillez de près dans cette période de publication, ce sont les foncières cotées. Elles sont en forme, les foncières cotées, racontez-nous.
Elles sont en forme, elles se remettent doucement de deux années assez compliquées depuis la hausse des taux. Les taux d'intérêt pour les foncières immobilières cotées, c'est l'outil de travail principal. C'est ce qui va vraiment dicter le financement et donc la construction du patrimoine. Ça a été compliqué pendant deux ans et c'est une période qui a permis à nos grandes foncières, les Unibail, Gecina, Icade, Carmila pour les plus connus, Covivio aussi, de se recentrer sur leur bilan, donc de se désendetter.
Mm-hmm.
Si vous avez de la dette et que les taux montent, l'essentiel c'est quand même de la réduire et de réduire votre exposition au marché. De continuer à verser des dividendes, on est à des rendements moyens d'environ 7% sur le cours de l'action, mais aussi de faire du travail de fond, d'asset management, de signer des nouveaux baux, pour les foncières commerciales, de voir le chiffre d'affaires de leurs anciennes locataires progresser en renforçant l'attractivité des sites. Résultat, les Carmila, les Mercialis, l'ex-foncière de Casino, parce que maintenant Mercialis n'est plus détenue par Casino, c'est celle qui progresse le plus depuis le début de l'année, du plus 13% pour Mercialis par exemple. Et dans cette période de publication trimestrielle, pour celles qui ont commencé à publier, eh bien toutes, elles affichent des croissances de leurs revenus de l'ordre entre 5 et 12%. 5% pour les plus faibles, 12% pour les plus performantes. On attend encore les publications de Klépierre ou bien de Covivio par exemple, mais c'est très prometteur. Et le coup à jouer, c'est que si les taux baissent, comme l'annonce la BCE ou la Banque de France d'ici le mois de juin ou d'ici l'été, eh bien, mécaniquement, un taux d'intérêt plus faible va augmenter la valeur du patrimoine et réduire la valeur de leur dette. Donc, il y aura plus-value à prendre sur ces dossiers.
Voilà, un coup à jouer peut-être avant la décision de Christine Lagarde et de la BCE de baisser éventuellement les taux. Question rhétorique. En période de publication, et si la tech nous décevait ?
Et si la tech nous décevait, il faut, je pense, bien définir ce que c'est que la tech. On vient de parler de Tesla. Est-ce que Tesla, c'est de la tech ou est-ce que c'est des bagnoles ? C'est de la technologie dans des voitures, certainement. Est-ce que Apple, c'est de la tech ou des iPhones et des ordinateurs ? Je pense que la tech, vraiment, vous avez Nvidia, vous avez Microsoft, vous avez des logiciels, vous avez Amazon Web Services, etc. Aujourd'hui, ce qui fait peur, c'est que les fameuses 7 magnifiques, et d'ailleurs, il faudrait enlever Tesla et rajouter Broadcom, qui est passé.
Ou enlever 7, en fait, peut-être aussi.
Ouais, pardon ?
Enlever 7 aussi.
Voilà.
Pour un peu de chiffre, non ?
Ou enlever magnifique. Ce qui fait peur, c'est qu'elle draine des centaines de millions de clients, et donc des centaines de millions d'investisseurs, et c'est l'effet de masse, en fait. Donc si la tech déçoit, ce qu'on peut craindre, c'est un effet Pareto, où 20% des causes vont produire 80% des effets.
Eh oui.
Et ça serait peut-être la cause de correction la plus probable sur les marchés, avec une moindre pondération, une moindre concentration de toute la spéculation du drain de liquidité sur ces 7 magnifiques, au profit de sous-secteurs de la cote, les small caps, les pharma, l'alimentaire, etc., qui pourraient repartir dans un cycle plus haussier. Finalement, ce serait un rééquilibrage assez sain pour la diversification des portefeuilles et pour le niveau de valorisation de la tech.
Voilà, jolie démonstration de la loi de Pareto. Les pharma, pour vous reprendre, dont on parlera dans quelques minutes avec Laurent Grassin de Boursorama qui va nous rejoindre. Question rhétorique pour terminer ce journal. Est-ce que nous aurons bientôt un Nasdaq européen ?
C'est l'idée présentée dans le rapport L'État et peut-être dans le rapport Noyer, qui sont des rapports présentés par les différents dirigeants économiques européens pour créer vraiment une union de marchés capitaux et faire la concurrence au marché américain. Mais avant de vouloir créer un indice Nasdaq pour les entreprises européennes, il faudrait peut-être créer un marché. Il y a le poids de la capitalisation du Nasdaq, le Nasdaq 100, les 100 premières entreprises du Nasdaq, c'est 22 000 milliards de capitalisation. C'est 11 fois le CAC 40, c'est donc 22 fois le DAX. Il n'y a même pas match. Tant qu'il n'y aura pas assez de liquidités et de capitaux sur le marché européen, on peut faire tous les indices qu'on veut, on ne fera pas le poids par rapport l'union des marchés de capitaux ne fera pas le poids par rapport aux États-Unis.